bienvenue sur Liberté, le podcast qui infuse la liberté. Dans nos podcasts habituels, on discute environ une demi-heure à deux d'une thématique en lien avec le libéralisme. Pour aller plus loin, on est partis les trois, Diego, Jérémy et moi-même, Nicolas, à la rencontre de différents acteurs qui s'engagent pour la liberté. On a essayé de savoir comment et surtout pourquoi et avec quels outils ils s'engageaient pour cette dernière.
La liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare.
Notre deuxième invité est Maxime Sbeil, il est directeur général de Génération Libre. C'est un think tank indépendant qui s'engage et qui veut promouvoir les libertés, toutes les libertés. On va voir avec lui ce que ça veut dire au quotidien, quelles sont leurs idées, quelle est la manière dont ils s'impliquent pour celles-ci et comment ils arrivent aussi à atteindre différents publics et pourquoi c'est par cette voie-là qu'ils ont l'impression d'être le plus utile à la liberté.
Tout d'abord, pourquoi un think tank libéral ? Et quel est votre rôle dans le débat public ?
Alors déjà, pourquoi un think tank déjà tout court ? Alors ça, il faudrait presque plus poser la question à Gaspard Koenig, qui a donc créé Génération Libre en 2013, donc il y a 7 ans maintenant. Et en fait, l'idée de départ de Gaspard, et que donc nous on fait perdurer maintenant, c'est de dire il faut dans la vie publique des structures qui alimentent d'idées et de propositions les partis politiques. Ce sont des choses très différentes. Et Gaspard, d'ailleurs, s'est confronté au scrutin universel. Je crois qu'il s'est présenté aux élections législatives. Il s'est rendu compte, finalement, que le combat était plus idéologique que politique. Et qu'en fait, le vrai combat culturel, ce sont les idées qui le mènent. Et les politiques font que reprendre des idées qui, d'ailleurs, parfois sont des idées très anciennes. Il y a cette fameuse citation de Keynes qui dit quand un homme politique se croit exempt de toute influence idéologique, en fait, il est influencé par un économiste qui est mort et qui a déjà fait des grandes théories sur des sujets de société. Donc, le think tank vise justement son rôle, c'est d'alimenter d'idées le débat public et les décideurs politiques. Après, Gaspard a créé ça parce que il estimait qu'en France, notamment, et c'est là où pourquoi un think tank libéral, qu'en France, le libéralisme était caricaturé, que le libéralisme n'avait pas vraiment de porte-parole, n'avait pas vraiment justement de structure qui lui permettait d'être relayé dans les médias. Et en faisant ces deux constats-là, celui donc, de la structure et celui des idées, il s'est dit, si on fait les deux en même temps, ça donne un think tank libéral. Et voilà. Alors moi, mon rôle dans ce think tank, pour répondre à votre troisième question, moi, je suis arrivé il y a un an et demi chez Génération Libre. Donc, je connais Gaspard depuis très longtemps. On était londoniens tous les deux. On refaisait le monde dans les arrière-pubs londoniens. Et moi, il se trouve que je travaillais à la City et que j'en avais un petit peu marre. Et il m'a dit, écoute, prends les rênes de Génération Libre et deviens directeur général. Et j'ai accepté sans trop hésiter.
Donc pour vous, le think tank est complémentaire aux partis politiques et vous laisse une plus grande liberté dans la proposition de nouvelles idées.
Oui, alors moi je pense que c'est ça vraiment la question, c'est que les partis politiques ne sont pas là pour réfléchir. Il faut arrêter de croire que les partis politiques sont des structures qui peuvent à la fois faire des campagnes électorales, faire un programme, façonner une vision pour un pays. Moi, je pense que c'est pas leur rôle. Moi, je suis passé par des partis politiques, j'ai travaillé dans les partis politiques et je me suis rapidement rendu compte que c'était plus une machine à ego, une machine à élection, qu'une machine à réfléchir ou à façonner le monde. Et les Américains, les Anglo-Saxons ont rapidement compris ça, puisque eux, les think tanks, c'est institutionnalisé. Au Royaume-Uni, vous en avez des dizaines très puissants. Aux États-Unis, je vous en parle même pas. Et donc, les partis vont s'alimenter, en fait, dans ces think tanks-là. En France, on n'a pas cette tradition-là. On n'a pas cette culture-là. En France, on a plus la culture d'un gourou qui suit le candidat, d'un expert qui va tout faire, qui écrit les discours, qui fait le programme. Et je trouve que c'est assez dommage parce que je trouve que la séparation des rôles entre réflexion, faire des idées et gagner une campagne, elle est, dans une démocratie, elle est vitale. Parce que, encore une fois, on peut pas faire l'un et l'autre. Un think tank, l'avantage, c'est que vous avez une indépendance. Vous avez une indépendance, alors même financière, hein, si Génération Libre, par exemple, on reçoit aucune subvention publique et on est quasiment que sur des dons personnels, donc ça nous laisse une indépendance totale. Vous avez une objectivité, vous évacuez les égos et vous prenez le temps long de la réflexion. Ce temps long-là, il y en a besoin, le temps de se poser avec des experts, de tester des idées, et sans être soumis en fait, au verdict des électeurs, parce que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est-à-dire que vous êtes là aussi pour proposer des idées qui choquent un peu, des idées qui sortent du commun, vous êtes là pour repousser les limites de la fameuse fenêtre d'Overton, où on dit, bon, bah, il faut aller plus loin que l'eau tiède qu'on nous propose en permanence, ce qu'on appelle le mainstream. Nous, c'est clairement le rôle de Génération Libre de pousser beaucoup plus les limites du débat public, et ça, un parti politique ne peut pas le faire. Donc, un think tank, si vous voulez, c'est ni un parti politique, ni une entreprise. On n'est ni là pour gagner de l'argent, puisqu'on est une association, donc non-profit, et on n'est pas là pour être élu. Et d'ailleurs, c'est ce qui attire beaucoup de jeunes chez nous, parce que du coup, on est totalement là-dessus clair, et ça attire beaucoup de gens qui suspectent les partis politiques, justement, d'être un petit peu trop électoralistes, et qui suspectent des entreprises d'être un petit peu trop orientées vers le profit. Et donc, du coup, nous, on n'est ni l'un ni l'autre, et ça plaît à beaucoup de gens.
Et quel est l'accueil que vous recevez auprès des médias, ainsi qu'auprès des partis politiques ?
Bah, ce qui est quand même intéressant, c'est que bon, Génération Libre a 7 ans, donc c'est quand même une marque. Je dirais pas que c'est connu, mais c'est une marque établie, c'est-à-dire que c'est une marque à laquelle on fait confiance. Ça, c'est le travail depuis 7 ans qui a été fait, qui porte ses fruits. L'accès aux médias en France, il est quand même assez facile. Quand vous travaillez un peu, quand vous tenez un discours quand même qui est fondé, qui est argumenté, c'est plutôt ouvert. Nous, on le voit tous les jours. Donc, médiatiquement, on est plutôt bien accueilli, notamment parce qu'on est des libéraux et on le dit haut et fort et on n'a pas peur de le dire. Ça court pas les rues en France, donc généralement sur les plateaux ils sont très contents d'avoir un libéral qui dit bah oui, je suis libéral et puis je l'assume et donc je viens dire ce que je pense. Donc là-dessus on a quelque part une facilité parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Après sur les politiques, oui, ce qui est intéressant, pas plus tard qu'aujourd'hui, on a, par exemple, aujourd'hui, je vous dirai pas le nom de la personne, mais un député ou son cabinet nous a appelé pour avoir des éléments de langage sur une disposition de loi, parce que il avait besoin, voilà, de termes, de choses à utiliser, d'axes. Et donc, en fait, quand on en arrive là, c'est très très bien pour un think tank, parce que ça veut dire que vraiment, on structure le débat public et on alimente, même au niveau du langage, au niveau des mots, les politiques. Donc ça, c'est très bien. On est reçu par les ministres, on sait que les cabinets ministériels, même Matignon et l'Élysée, reçoivent nos newsletters, on leur renvoie aussi nos rapports, donc on est en communication avec eux. Alors après, oui, ils en font ce qu'ils veulent, hein. ils sont pas là pour suivre tout ce qu'on propose, mais enfin, on met quand même un point d'honneur à être en permanence en relation et en communication avec eux, parce que le but du think tank, il est double, c'est à la fois d'éclairer l'opinion publique, donc de changer les opinions des électeurs, c'est pour ça qu'on est dans les médias, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de bruit, qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux, mais aussi d'influencer l'offre politique. Donc à la fois la demande politique, changer l'opinion des électeurs, mais en même temps donner aux hommes politiques et donc à l'offre politique des éléments à proposer à ces électeurs. Donc on joue à la fois sur l'offre et la demande. Alors c'est peut-être faire un grand écart, mais en tout cas c'est pour l'instant ça tient et c'est ce qu'on essaye de faire.
Et quelle serait votre définition de la liberté en quelques mots ?
La liberté, elle est très très pratique en fait. Enfin, elle est très simple, c'est que on ne choisit pas où et quand on est, mais on doit pouvoir choisir comment on vit. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous avez un déterminisme à la naissance, mais que pour contrebalancer ce déterminisme-là, vous devez pouvoir, entre le moment où vous naissez et le moment où vous disparaissez, la vie est complexe, certains diraient même absurde, vous devez pouvoir déterminer, vous, la vie que vous devez mener. Donc ça, c'est, pour moi, c'est la pierre angulaire de tout. Ça se décline en économie, ça se décline en société, ça se décline en politique, ça se décline en social. C'est d'ailleurs la vision de Génération Libre, c'est un libéralisme à 360 degrés, c'est-à-dire que c'est pas qu'un libéralisme qui veut, on va dire, ouvrir certains marchés et baisser les impôts, c'est beaucoup plus que ça. C'est quelque chose, c'est vraiment philosophiquement une pierre angulaire. Moi, une pierre angulaire du libéralisme qui m'intéresse, c'est la notion de tolérance. Et je trouve qu'on en parle rarement, que les libéraux parlent jamais de tolérance. Le libéralisme est la philosophie la plus tolérante du monde. Puisque c'est une philosophie qui reconnaît la particularité de chacun, la souveraineté de l'individu, et qui, en reconnaissant la souveraineté d'un individu, reconnaît aussi, en face, une autre souveraineté. Donc une différence. Et une différence qui a autant le droit de s'exprimer, de vivre, d'agir dans le monde qu'on partage. Et cette différence-là, il faut la tolérer. Il faut lui permettre aussi de vivre comme elle le veut, même si cette vie-là, cette manière de vivre, cette existence, et n'est pas la même que la mienne. Voilà. Donc la tolérance est en fait est à la base parce que c'est celle qui nous permet en fait de vivre ensemble tout en reconnaissant nos différences. Je pense aussi, idéologiquement un peu plus poussé, que c'est en fait l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire quand on regarde sur l'histoire récente, l'idée de liberté individuelle, c'est quelque chose de très fragile et très nouveau. Les Lumières, c'est la Révolution française qui l'a fait à moitié, c'est les droits civiques américains. Donc c'est tout un processus qui a en fait libéré l'individu progressivement du groupe, du collectif. C'est ce que Popper appelait la tribu, enfin le déracinement de la tribu, repris par un auteur que j'aime beaucoup, qui moi je trouve est un très grand libéral, qui m'a beaucoup inspiré, qui est Mario Vargas Llosa, que j'aime énormément, donc péruvien, qui écrit beaucoup de livres et qui est un libéral qui s'est présenté aux élections présidentielles, qui écrit très très bien, qui fait des très beaux romans, qui en plus a l'avantage d'être sud-américain, moi ça me plaît beaucoup. Et effectivement, je vous vois en train de l'écrire, La Yamada de la tribu, l'appel de la tribu, qui n'a pas encore été traduit d'ailleurs, c'est dommage, mais je crois qu'ils sont en phase de traduction, et qui recoupe en fait tout son cheminement intellectuel. Et justement, et Vargas Llosa, l'appel de la tribu, c'est ça en fait, c'est-à-dire que vous avez une tentative dans l'histoire de l'humanité de noyer l'individu dans le collectif. Et qui dit noyer l'individu dans le collectif dit nier sa particularité et dire le soumettre à des impératifs qui peuvent être contraires à ses croyances, qui peuvent être contraires à sa personnalité, etc. Et donc, en fait, c'est ce travail-là d'arracher en permanence à la tribu qu'il faut faire, parce que la tribu rappelle toujours une forme de force un peu centrifuge, le nationalisme, le refus des diversités, le refus de la tolérance, et de vouloir mettre tout le monde dans un même schéma, sur un même territoire, sous un même drapeau. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est dangereux, et qui, encore une fois, est quand même assez nouveau, enfin, l'exception de ça est quand même assez nouveau dans l'histoire de l'humanité.
En quoi est souhaitable pour le collectif que chaque individu soit libre et puisse exprimer ses différences?
Oui, alors c'est toujours la tension qu'il y a entre le fait qu'on peut être libre, mais on vit en communauté, et puis on peut être effectivement dans un groupe et en même temps être avec sa différence. Donc c'est toujours cette espèce de tension qu'il y a là. Moi je pense que c'est Hayek, je crois, qui arrive très bien dans La Route de la Servitude. Moi, c'est le bouquin qui m'a fait devenir libéral, c'est La Route de la Servitude. Quand on lit La Route de la Servitude, ça m'avait beaucoup marqué parce que je trouve que c'était visionnaire, c'était très bien expliqué, et qui explique justement que la manière de vivre ne doit pas être fondée sur la coercition, mais plutôt sur une forme de spontanéité. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de coercition. Bien sûr qu'il doit y avoir, par moments, il doit y avoir des lois, il doit y avoir un ordre quand même qui permet un cadre, mais que la spontanéité des existences et la manière dont elles ont de se rencontrer est beaucoup plus créatrice d'opportunités, de richesses, d'idées, que la coercition, tout simplement parce que la coercition, c'est un homme ou quelques hommes qui vont décider pour le reste, alors que la spontanéité vous permet justement de laisser ce processus-là, de le décentraliser, et donc d'avoir beaucoup plus de choses qui en ressortent que quelques individus dans une salle qui pourraient, c'est un peu un mythe, mais qui pourraient contrôler le reste. Donc je pense que c'est comme ça que ça s'articule. C'est-à-dire que je pense que la liberté doit être une priorité et la coercition doit être une exception. Malheureusement, on pense souvent l'inverse. On pense souvent qu'il faut d'abord le cadre, il faut d'abord le collectif, et que la liberté, c'est un résidu, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement donner un petit peu après en plus de ça. Ça, je pense que c'est un peu inverser les choses, et c'est là où les problèmes se posent, c'est quand on oublie l'ordre de priorité, justement.
Quelles sont, selon vous, les valeurs fondamentales de la liberté?
Alors moi, je vous ai dit la tolérance, pour moi, c'est une valeur. Le doute, aussi. Parce que la beauté du libéralisme, c'est qu'il doute, c'est que c'est pas un système fermé, c'est pas un dogme mort, pour reprendre les mots de John Stuart Mill, contrairement justement à des idéologies, le marxisme par exemple, qui, quand on lit Marx, ça répond à tout, tout est dans un cadre, tout est expliqué, et tout a l'air de fonctionner, sauf que c'est un système qui est fermé, et que justement, l'homme, les existences individuelles, de par leur interaction, ne peuvent jamais rentrer dans un cadre fermé qui a été imaginé par un homme. C'est impossible. Même si on est croyant, je pense que on pense, ça c'est un autre débat, mais je pense que même à ce niveau-là, on peut se poser des questions. Oui, tolérance, pour revenir à votre question, doute, questionnement, tâtonnement. C'est aussi pour ça que les libéraux sont aussi... l'avènement du libéralisme, c'est aussi fait avec l'avènement de la science. C'est que justement, c'est la connaissance par tâtonnement, de se remettre en question, parce qu'on peut toujours estimer que l'autre a raison et qu'on a soi-même tort. Et donc, si vous voulez que je vous rajoute une valeur, ce serait celle de la modestie. Il y a une modestie dans le libéralisme, de la liberté d'expression telle qu'on la veut quand on est libéraux. C'est une liberté d'expression qui donne la parole aux opposants, qui donne la parole à ceux qu'on méprise, à ceux qui nous énervent, à ceux avec lesquels on n'est pas du tout d'accord. Plutôt qu'avoir le réflexe de dire « mais ceux-là, il faut les censurer », non, on les écoute, parce que peut-être qu'ils ont raison. Et s'ils n'ont pas raison, c'est moi qui ai... Si eux ont tort, c'est moi qui ai raison. Et donc, du coup, moi, je renforce mon argument en le confrontant à un contre-argument et en le confrontant à une autre opinion. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais tolérance, modestie et doute.
Il y a différents courants dans le libéralisme et certains vous reprochent d'être trop pragmatique ou de faire trop de compromis. Quel est votre point de vue sur ces reproches ?
Oui, alors, moi, ce qui me dérange un petit peu dans le libéralisme, c'est les batailles de chapelle. Où il y en a qui donnent des diplômes de libéralisme. Alors, et justement, pour moi, ça va contre l'idée même de libéralisme, qui est justement une idée flottante, qui est un système qui n'est pas fermé, personne n'a le monopole du libéralisme. C'est antinomique, en soi. Donc oui, alors, Génération Libre a une position un petit peu unique, peut-être qu'on en reparlera, je sais pas, mais qui est effectivement que bah, on parle aussi bien de l'économie que du sociétal, donc on défend la GPA, on défend l'abolition du statut de la fonction publique, on défend la propriété privée des données personnelles, donc on est à 360 degrés, donc on est sur beaucoup de sujets, et on a beaucoup de gens qui sont d'accord avec nous sur certains sujets, et pas sur d'autres, et on a sur certains sujets on est accusé d'être socialiste, et sur certains sujets on est accusé d'être libertarien. Donc quelque part, quand on a ces deux accusations, on se dit qu'on est un peu entre les deux, que c'est pas trop mal. Moi, ce qui me dérange quand même aujourd'hui dans le libéralisme, c'est qu'on a beaucoup, et notamment en France, des espèces de gardiens du temple qui vous expliquent que le libéralisme, c'est ça et pas autrement, qui sont très dogmatiques, qui vous ressortent des écrits d'il y a 200 ans en vous disant « mais lui avait raison et c'est tout », qui sont pas vraiment en phase avec leur monde. Moi, c'est ce qui me dérange beaucoup. Et vous savez, il y a une phrase de Peggy sur Kant qui dit « Kant a les mains propres, mais il n'a pas de main », pour critiquer son impératif catégorique, en disant « en gros, sa morale, elle est très belle, mais elle s'applique pas à la réalité ». Et moi, je pense aussi que, sur le libéralisme ou même sur d'autres idées, il y en a beaucoup qui ont des idées pures, mais qui n'ont pas de propositions pratiques, qui ne les frottent pas au réel. Voilà, donc ça, c'est un vrai problème. Nous, on est pragmatiques. Voilà, on n'est pas des idéologues, on est des pragmatiques. Donc la réponse, elle est là. Quand on va proposer, on fait des rapports, on fait des études, on fait des rapports. Quand on va proposer des propositions aux députés, aux ministres, on est obligé de tester nos idées à la réalité. Donc on est obligé de faire un compromis avec la réalité. Mais faire un compromis avec la réalité, c'est pas trahir la philosophie, au contraire. Je pense que c'est lui faire honneur. Parce que le libéralisme, il se vit au jour le jour. Il doit se vivre au travail, en famille, avec les amis. Donc c'est quelque chose... Il faut faire cet effort-là de le frotter à la réalité et de voir si ça marche. C'est beaucoup plus compliqué que l'effort d'être dans une bibliothèque et d'être dans la pureté de la théorie et de dire « bon, bah, c'est comme ça et pas autrement, parce que j'ai lu 3 livres et que dans ces livres sont très beaux, sont bien écrits ». Moi, ça me dérange beaucoup, et je sais qu'il y a une grosse tendance chez les libéraux, de manière générale, de faire ça. Et encore une fois, quand vous êtes face à un député et qu'il veut une réponse concrète, qu'il veut une proposition concrète à un problème concret, vous ne pouvez pas lui sortir un écrit d'il y a 200 ans, il va vous rigoler à la figure. Et les lecteurs aussi. Nous, on est pragmatiques, oui, et je pense que c'est un effort supplémentaire à faire. Et si le libéralisme veut continuer à exister, il doit faire cet effort en permanence. Il doit avoir ce dialogue en permanence avec la réalité. La théorie et la pratique, ils dialoguent en permanence.
Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures.
La liberté est moins défendue que dans le passé, elle est peut-être moins attirante. De quoi est-ce qu'elle a besoin pour faire à nouveau rêver ?
Comment la liberté fait rêver ? Je pense qu'on va venir sur les idées, les propositions en général, mais de manière générale, moi je pense que il faut la tester, la liberté. C'est-à-dire que avant d'en parler et pour que les gens soient intéressés par l'idée de liberté, il faut la tester. Alors ça veut dire quoi la tester ? Bah, ça veut dire prendre son sac à dos, se barrer, aller voir les différentes manières de vivre, les différentes manières de parler, de penser, aller se jeter dans des gouffres pour que nos ailes poussent, aller à la rencontre de l'autre, sortir des cadres. Se faire peur, sentir un vertige, juste par empathie personnelle, moi j'ai quitté la City, j'ai pris un sac à dos, avant que Gaspard Koenig m'a bien voir Génération Libre, j'ai pris un sac à dos, je suis parti vivre en Argentine, je connaissais personne, je suis allé là-bas, il faut vivre la liberté, il faut la sentir, elle fait peur, elle est difficile, elle n'est pas tous les jours facile à vivre, hein, c'est un risque à prendre, mais je pense que pour qu'elle fasse rêver, il faut la ressentir, il faut la pratiquer. Voilà, il faut pouvoir savoir exactement de quoi on parle quand on défend ça. Donc voilà. Après, par exemple, vous regardez Gaspard Koenig, il a publié deux livres, Les Aventuriers et la Liberté. Pareil, il fait ça, il part en Inde, il part au Pérou, il va en Californie, il va au fin fond de la Chine, il va voir les gens, il va voir comment sur le terrain il garde cette torche de la liberté, comment ils se battent pour elle. Consciemment ou inconsciemment, parce qu'il y en a qui se battent pour elle sans vraiment savoir que ce sont des libéraux. Il y a beaucoup de libéraux qui s'ignorent, il y en a énormément. Ça, je pense qu'en France, il y a une majorité de libéraux qui s'ignorent. Il faut les révéler. Mais voilà, pour qu'elle fasse rêver, il faut la tester. Je pense qu'il faut aussi la rendre sexy. Nous, on essaye, on a un site web qui est très ludique, on essaye d'avoir une charte graphique intéressante, on essaye de dépoussiérer tout ça. Il faut que ce soit cool, la liberté. On est sur Instagram, on parle de libéralisme sur Instagram. Qui c'est qui parle de libéralisme sur Instagram ? Enfin, si vous le faites apparemment, donc on est deux. Mais il n'y a pas grand monde qui fait ça. Donc, pour qu'elle fasse rêver, il faut l'actualiser. Il faut la rendre accessible. Il faut la donner aux gens. Il faut la tendre sur une main. Et là, encore une fois, du coup, il faut parler au-delà des libéraux. Il faut parler à ceux qui sont des libéraux qui s'ignorent et à ceux qui ne sont pas encore des libéraux, mais qui peuvent le devenir.
La liberté souffre d'un certain nombre de clichés. Elle est parfois confondue avec ce qu'elle n'est pas. Comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre ce que nous défendons ? Comment est-ce qu'on atteint au mieux la population ?
Bah, par la pédagogie. Et oui, alors ce qui est très compliqué, c'est effectivement de nettoyer un peu le terme de libéralisme, puisqu'il a été vilipendé pendant des décennies, caricaturé, sali. On a oublié qu'il est né aussi en France, il y a quelques siècles. Et donc, c'est vrai que ça fait toujours mal. On entend dans la bouche des politiques ou des intellectuels, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on dit c'est libéral, c'est néolibéral, comme si c'était une insulte. Donc je pense que la première chose à faire, c'est ce qu'on fait nous tous les jours sur les plateaux, c'est de nettoyer le terme libéral. Après, c'est de faire comprendre, effectivement, que ce qu'on appelle libéralisme, c'est peut-être du capitalisme de connivence, que ce qu'on appelle libéralisme, les défauts du libéralisme, c'est peut-être des fois les défauts d'un État-providence, par exemple en France, qui, loin d'être providentiel, crée des injustices, crée des inégalités, ne remplit plus tout son rôle, plus personne ne comprend comment ça marche, comment il paye, comment il reçoit. Et donc c'est de faire ce travail d'explication, de dire, mais finalement, ce que vous reprochez au libéralisme, en fait, des fois, c'est l'inverse du libéralisme qui le crée. Et que l'étiquette est mauvaise. Vous retirez l'étiquette, c'est peut-être trop de socialisme, trop de collectivisme, et peut-être que il faut faire un peu plus de libéralisme sur le moins sur le papier et plus dans la pratique. Il y a quand même moins un élément sur lequel, à chaque fois qu'on parle de libéralisme, les gens sont d'accord sur la liberté d'expression. Alors si vous enlevez quelques, on va dire, urbains très politiquement corrects, qui surfent, là je parle de la France, hein, parce que sur les États-Unis c'est un peu différent, parce que le political correctness c'est quand même un phénomène beaucoup plus de société qu'ici, mais vous voyez, moi je viens d'un village du fin fond du sud-est de la France, quand vous êtes au PMU et que vous parlez de liberté d'expression, les gens sont libéraux. Les gens sont libéraux fondamentalement, enfin ils vous disent la liberté d'expression se réduit comme peau de chagrin, on peut plus faire les blagues qu'on veut, on peut plus rien dire, on peut plus rire, on peut plus réfléchir, on peut plus... Et ça je pense que c'est quelque part un réflexe libéral, naturel qu'ont les gens, en tout cas en France, qui moi me fait dire que oui, encore une fois, il y a beaucoup de libéraux en France qui s'ignorent, et peut-être que c'est par la liberté d'expression qu'il faut reprendre tout ça, et refaire le cheminement pour expliquer ce qu'est le libéralisme.
Et quelles sont pour vous les principales mises à jour dont a besoin le libéralisme ?
Il y en a beaucoup, hein. Alors après moi j'invite ceux qui écoutent ce podcast à aller sur le site de Génération Libre, générationlibre.eu, parce que tous nos rapports sont en accès direct, gratuit, donc vous pouvez aller voir tout ce qu'on fait, on a une cinquantaine de rapports, on va pas tous les faire là, ça va être un peu trop long, mais globalement je pense qu'il y a 4 grands secteurs, 5 sur lesquels le libéralisme doit s'actualiser. Le premier, c'est la technologie. La technologie met le libéralisme devant des nouvelles questions. C'est évident quand on voit par exemple sur la reconnaissance faciale qui se développe aujourd'hui. Les Allemands, les libéraux allemands viennent de se prononcer contre. La question se pose, est-ce qu'il faut donner les infrastructures aux Chinois, à Huawei? Est-ce qu'il faut interdire, tolérer, limiter, restreindre la reconnaissance faciale dans l'espace public, l'espace privé? Comment on fait par rapport à ça? Là, c'est quelque chose que les auteurs d'il y a 50 ans ou il y a 100 ans n'ont pas la réponse. Hein. Pourtant, on est face à un risque de surveillance généralisée et une vie privée qui n'est plus le cadre secret qu'elle devrait être naturellement. Il y a aussi le numérique. Alors ça, vous savez que c'est un des grands chevaux de bataille de Génération Libre de s'attaquer au numérique et de dire que finalement le numérique, c'est une formidable opportunité pour connecter les gens, pour transmettre l'information, pour prendre des décisions, pour informer les gens, c'est super. Mais le numérique a été beaucoup plus vite, la technologie a été plus vite que le droit et l'économie. Et du coup, nous, on se bat beaucoup pour la propriété privée des données personnelles, qui consiste à dire, en fait, ces données personnelles, elles sont le sang de l'écosystème numérique. C'est nous qui les produisons, c'est nous qui les fournissons en permanence. Là, en ce moment, on est en train de parler, mais nos téléphones, il y a la géolocalisation, ils parlent en permanence avec les applications, les données sont envoyées, utilisées, elles sont mises dans des profils, revendues. Et donc, tout ce système-là, il marche très bien, sauf qu'il y en a un seul qui est le donnant de la farce dans tout le système, c'est le producteur de données. Parce que c'est lui qui fournit, mais il n'est pas rémunéré et il n'est pas pris en compte. Alors, on peut dire oui, mais le service est gratuit et donc il sait très bien ce qu'il fait. Non, en fait, quand on regarde, on a publié des rapports là-dessus. En fait, il n'est pas du tout conscient que ces données sont aspirées à ce point-là. Et quand vous faites prendre conscience aux gens que ces données, que toutes ces données sont aspirées, il y en a beaucoup qui ont peur, hein, qui tombent de leur chaise et qui se disent ah, mais je savais pas qu'ils utilisaient tout ça. Donc nous, pour dire propriété privée, données personnelles, on donne le choix à l'utilisateur. Voilà, c'est une question de donner le choix. Pour moi, c'est très libéral. La propriété privée, c'est un des pierres angulaires du libéralisme. C'est ce qui permet de résister à l'oppression. C'est ce qui permet d'avoir sa vie privée, d'avoir son petit jardin secret. Et ça doit marcher aussi pour le numérique. Donc le droit doit être actualisé pour ça. Voilà, bon, il y a beaucoup de libéraux qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais nous, c'est une proposition concrète qu'on fait. On a fait deux gros rapports là-dessus. On en parle avec Bruxelles. On va faire un troisième rapport. On fait une expérimentation avec des scientifiques. Donc, vous voyez, là, c'est aussi, on parle de la pureté de l'idée et du côté pratique. On est en plein dedans. Donc ça, c'est un aspect. Le deuxième, je pense que c'est au niveau sociétal. Alors au niveau sociétal, je pense que c'est là où c'est le plus facile pour les libéraux. Parce que concrètement, le mariage homosexuel, on voit que, par exemple, il y a de plus en plus de pays le légalisent. C'est un petit peu la marge de l'histoire, si on veut. On voit sur la PMA aussi en France, ça vient de passer. C'est quelque chose qui était impensable il y a 10 ans. La GPA, nous, on espère que on va aller vers ça. On a publié un gros rapport là-dessus. Le cannabis, à mon avis, c'est une question d'année, parce que les arguments sont trop forts en termes de santé, en termes d'économie, en termes de liberté individuelle, enfin philosophiquement, tout se tient, c'est juste une question de temps et que les mentalités se fassent un peu, mais on sent à chaque fois qu'il y a une vague dans les médias sur le cannabis, qu'on est de plus en plus pris en compte, et on nous pose moins la question de savoir pourquoi, mais plus du comment, donc c'est quand même bon signe là-dessus. Moi je pense qu'il y a encore deux choses sur lesquelles le libéralisme doit se prononcer sur le niveau sociétal. Le droit des animaux, ça va être un gros sujet, on voit que c'est déjà un gros sujet. On voit que les antispécistes ont un peu monopolisé ça, je pense que c'est un peu dangereux, il faut que le libéralisme puisse répondre à ça. Quelle place donner aux animaux? Maintenant on sait que la science nous montre que les animaux ont des sentiments, que les animaux peuvent ressentir la douleur, peuvent ressentir des émotions, dont acte, ça il faut le prendre en compte, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils sont sur le même niveau que les hommes, voilà, donc moi l'antispécisme c'est pas vraiment mon truc, mais il faut là aussi actualiser un petit peu les lois par rapport à ça, et prendre en compte ces nouvelles découvertes de la science nous dit quelque chose, il faut pouvoir s'adapter à ça, et globalement aussi, et ça c'est un gros travail de Gaspard Koenig, c'est l'idée que notre corps nous appartient. L'idée qu'on est les seuls maîtres de notre corps et on doit pouvoir en faire ce qu'on veut. Alors ça, c'est la prostitution, c'est faire ce qu'on veut de son corps après sa mort. Ça rejoint la bioéthique, ça rejoint beaucoup de choses médicales. Pour faire rapidement, en politique aussi, je pense que c'est très important de réinventer la démocratie. Alors vous êtes suisse, vous avez l'habitude d'avoir plus de pouvoir au niveau local, de pouvoir redistribuer les compétences et le pouvoir. En France, on est encore très loin de ça, et dans beaucoup de pays, je pense qu'il faut redéfinir les compétences entre le local et le post-national, le supranational. Je pense que le national est de plus en plus mis en échec. Il y a une illusion, c'est de croire que le national est de retour, il est dans les urnes, mais je pense qu'il est de moins en moins à même de répondre aux grandes questions de ce monde. Les défis technologiques, ils ne seraient plus au niveau national, ils seraient qu'au niveau supranational, au niveau européen. Les questions d'énergie, c'est pareil, les questions de monnaie, on voit que les nations sont trop petites comme échelle pour régler ces gros problèmes. Le réchauffement climatique, qui est vraiment le gros problème, on va peut-être y venir. Et donc du coup, il faut réinventer la démocratie, il faut réinventer la manière de décider. entre donner plus de pouvoir à ces Tocqueville, redonner confiance aux citoyens dans la démocratie au niveau local, c'est là que tout se joue, et en même temps donner de l'efficacité à la politique en mettant certaines compétences au niveau supranational. Et donc redistribuer ça, je pense que ça c'est un vrai vrai débat du XXIe siècle, et le libéralisme a tout son mot à dire là-dessus. Au niveau économique, bon, ça c'est plus facile parce que ça fait longtemps que le libéralisme a des réponses hein, sur l'économie. Bon, après, il faut toujours faire attention là aussi sur les différences entre pays. On ne peut pas avoir les mêmes solutions en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Les structures sont différentes, les mentalités sont différentes. Mais je pense que globalement, l'État-providence, par exemple en France, on atteint les limites. On atteint les limites d'un État qui est trop gros, qui devient inefficace, qui ne remplit plus du tout son rôle et qui doit être repensé, qui doit être simplifié, qui doit être automatisé. Alors peut-être que vous voyez où je veux en venir, mais nous, on est beaucoup pour le revenu universel, qui, contrairement aux croyances, est une idée libérale au départ. Hein. C'est Thomas Paine qui en parlait. Et qui, donc, en fait... Bah, présuppose un État, puisque nous on n'est pas contre l'État, je pense que l'État a un rôle à jouer, l'État est là pour libérer les gens, mais l'État doit laisser les gens tranquilles aussi, et l'État doit pouvoir leur offrir un filet de sécurité sans être intrusif, comme on fait aujourd'hui par exemple pour le RSA, où les gens doivent remplir des formulaires, doivent expliquer comment ils vivent, pourquoi ils vivent, quel job ils ont fait avant, c'est très intrusif, c'est très dégradant, c'est assez indigne, donc nous le revenu universel pour nous c'est un filet de sécurité automatique qui enlève toute la complexité et qui permet aux gens de faire des choix dans la vie et qui permet aux gens justement, non pas de pas travailler, parce que c'est pas du tout ça, mais de choisir leur boulot, de choisir la vie qu'ils veulent mener. Et puis tout ça, c'est autofinancé par un revenu universel. Bon, je vous fais pas tout le discours, mais tout ça, c'est pensé de manière là encore concrète avec un vrai mécanisme derrière de financement. Donc voilà, je pense que de manière générale, je pense que l'État-providence doit repenser la justice sociale, c'est un grand mot derrière lequel on met beaucoup de choses, en termes d'opportunités plutôt qu'en termes de subventions. C'est-à-dire que c'est pas les minima sociaux des subventions qui vont forcément créer la justice sociale, c'est comment on donne des opportunités aux gens, comment on refonde l'éducation, comment on remet tout le monde sur une l'égalité des opportunités. Moi je pense que c'est l'égalité des chances, c'est ça vraiment le cœur du sujet, plus que les inégalités, c'est de savoir comment on donne à chacun les mêmes opportunités, et ensuite chacun se débrouille et chacun, selon ses talents, selon ses envies, selon ses choix, peut avancer dans la vie. Aujourd'hui, on est encore très loin de ça et tout ça, il va falloir refonder. Dernier point, et c'est le plus difficile, c'est l'écologie. C'est la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, vous avez deux sortes de libéraux. Vous avez ceux qui vous disent « ça n'existe pas ». Voilà, qui sont climato-sceptiques, c'est pas du tout mon cas. Ils ont pas de réponse face au problème, donc ils nient le problème. C'est trop facile. Quelle est la solution? C'est très compliqué. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire en sorte que le capitalisme et le libéralisme continuent à exister tout en limitant le réchauffement climatique, tout en prenant au sérieux ce sujet écologique? Nous on y travaille, j'ai pas la réponse autre que vous dire que le capitalisme est le meilleur système pour faire sortir l'innovation, pour justement, on parlait au début de la spontanéité, de la créativité, c'est par des ingénieurs, c'est par la science, c'est par justement des nouvelles méthodes, des nouvelles sources d'énergie qu'on peut s'en sortir, je pense. Est-ce que ça suffira? Je sais pas. Est-ce qu'on a le temps d'attendre que la science nous propose des solutions? Je sais pas. Je vais pas vous dévoiler les travaux sur lesquels on travaille, mais on a 2-3 idées là-dessus pour essayer, on va dire, d'individualiser la lutte contre le réchauffement climatique. Je pense qu'il faut responsabiliser les gens, le consommateur et le citoyen. Le citoyen et le consommateur, pour moi, sont un peu la même chose, puisqu'ils font des choix tous les jours. Et c'est à partir de là, c'est les changements de comportement, c'est responsabiliser les gens qui vont nous aider à lutter contre le réchauffement climatique. J'espère qu'on va sortir un rapport, une publication dans pas trop longtemps, parce qu'il faut que le libéralisme réponde à ce problème-là de manière urgente.
Je détruis sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui. J'écris ton nom sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort. J'écris ton nom sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir. J'écris ton nom et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître.
C'est la fin de ce deuxième épisode à la rencontre des personnes qui défendent la liberté. C'était Diego, Jérémy et moi-même, Nicolas. En attendant le dernier épisode de cette série, vous pouvez vous rendre sur notre site internet et relire des interviews, des contributions et même d'anciens podcasts. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine!